Wikipédia, microscopie électronique et balayage. La microscopie électronique et balayage, MEB ou SEM pour scanning électron microscopie en anglais, est une technique de microscopie électronique basée sur le principe des interactions électron-matière, capable de produire des images en haute résolution de la surface d'un échantillon. Basée sur les travaux de Max Knoll et Manfred von Arden dans les années 1930, le principe du MEB consiste en un faisceau d'électrons balayant la surface de l'échantillon à analyser qui, en réponse, réémet certaines particules. Ces particules sont analysées par différents détecteurs, qui permettent de reconstruire une image en trois dimensions de la surface. Les travaux menés au laboratoire de Charles Attlee dans les années 1960 à l'université de Cambridge, ont grandement contribué au développement des MEB, et ont conduit en 1965 à la première commercialisation par Cambridge Instrument Company. Aujourd'hui, la microscopie électronique à balayage, est utilisée dans des domaines allant de la biologie aux sciences des matériaux, et un grand nombre de constructeurs, proposent des appareils de série équipés de détecteurs d'électrons secondaires, et dont la résolution se situe entre 0,4 nanomètre 2 à 20 nanomètres. Principe général modifié. Le pouvoir de résolution, capacité à distinguer des détails fins, de l'œil humain et du microscope optique, est limité par la longueur d'onde de la lumière visible, photon, et la qualité des lentilles grossissantes pour le microscope. Les plus puissants microscopes optiques peuvent distinguer des détails de 0,1 à 0,2 mètres 3. Si l'on veut observer des détails plus fins, il faut diminuer la longueur d'onde, qui sert à éclairer les cibles. Dans le cas des microscopes électroniques, on n'utilise pas des photons, mais des électrons, dont les longueurs d'onde associées sont beaucoup plus faibles. La figure ci-contre illustre le schéma de principe d'un MEB, une sonde électronique fine, faisceau d'électrons, est projetée sur l'échantillon à analyser. L'interaction entre la sonde électronique et l'échantillon génère des électrons secondaires, de basse énergie qui sont accélérés vers un détecteur d'électrons secondaires qui amplifie le signal. À chaque point d'impact correspond un signal électrique. L'intensité de ce signal électrique dépend à la fois de la nature de l'échantillon au point d'impact, qui détermine le rendement en électrons secondaires, et de la topographie de l'échantillon au point considéré. Il est ainsi possible, en balayant le faisceau sur l'échantillon, d'obtenir une cartographie de la zone balayée. La sonde électronique fine est produite par un canon à électrons, qui joue le rôle d'une source réduite par des lentilles électroniques, qui jouent le même rôle vis-à-vis du faisceau d'électrons, que des lentilles conventionnelles, photoniques dans un microscope optique. Des bobines disposées selon les deux axes perpendiculaires à l'axe du faisceau, et parcourues par des courants synchronisés, permettent de soumettre la sonde à un balayage du même type que celui de la télévision. Les lentilles électroniques, qui sont généralement des lentilles magnétiques, et les bobines de balayage forment un ensemble, que l'on appelle la colonne électronique. Dans les MEB modernes, la cartographie d'électrons secondaires est enregistrée sous forme numérique, mais le MEB a pu être développé dès le début des années 1960, bien avant la diffusion des moyens de stockage informatique, grâce à un procédé analogique qui consistait, comme sur le schéma de la figure, à synchroniser le balayage du faisceau d'un tube cathodique avec celui du MEB, en modulant l'intensité du tube par le signal secondaire. L'image de l'échantillon apparaissait alors sur l'écran phosphorescent du tube cathodique et pouvait être enregistrée sur une pellicule photographique. Un microscope électronique à balayage est essentiellement composé d'un canon à électrons et d'une colonne électronique dont la fonction est de produire une sonde électronique fine sur l'échantillon, d'une platine porte-objet permettant de déplacer l'échantillon dans les trois directions et des détecteurs permettant de détecter et d'analyser les rayonnements émis par l'échantillon. En outre, l'appareil doit nécessairement être équipé d'un système de pompe à V4. Histoire modifiée. Travaux préliminaires modifiés. L'histoire de la microscopie à balayage découle en partie des travaux théoriques du physicien allemand Hans Busch sur la trajectoire des particules chargées dans les champs électromagnétiques. En 1926, il a démontré que de tels champs pouvaient être utilisés comme des lentilles électromagnétiques 5, établissant ainsi les principes fondateurs de l'optique électronique géométrique. Suite à cette découverte, l'idée d'un microscope électronique prit forme et deux équipes, celle de Max Knoll et Ernst Ruskad à l'Université Technique de Berlin, et celle d'Ernst Brüsch des laboratoires EAG envisagèrent de tester cette possibilité. Cette course est menée à la construction en 1932, par Knoll et Ruskad, du premier microscope électronique en transmission 6, premier microscope à balayage modifié. Après avoir rejoint le Finkamp pour mener des recherches sur les tubes cathodiques des téléviseurs, Max Knoll a développé, afin d'étudier la cible de tube électronique analyseur, un analyseur à faisceau d'électrons, qui réunissait toutes les caractéristiques d'un microscope électronique à balayage. L'échantillon se trouvait à l'extrémité d'un tube de Verselé, et un canon à électrons se trouvait à l'autre extrémité. Les électrons, accélérés sous une tension de l'ordre de 500 à 4000 volts, étaient focalisés sur la surface, et un système de bobines les déviait. Le faisceau balayait la surface de l'échantillon au rythme de 50 images par seconde. Le courant transmis par l'échantillon récupéré, amplifié et modulé permettait de reconstruire une image. Le premier appareil utilisant ce principe a été construit en 1935-7. Par la suite, c'est le scientifique allemand Manfred von Arden qui, en 1938, a construit le premier microscope électronique à balayage 8. Mais cet appareil ne ressemblait pas encore au MEB moderne, car il avait été créé pour étudier des échantillons très fins en transmission. Il s'apparente donc plus à un microscope électronique à balayage par transmission, MBT ou STEM en anglais pour Scanning Transmission Electron Microscope. De plus, bien que doté d'un écran à tube cathodique, les images étaient enregistrées sur des films photographiques disposés sur un tambour rotatif. Von Arden a ajouté des bobines de balayage à un microscope électronique en transmission. Le faisceau d'électrons, d'un diamètre de 0,01 m, balayait la surface de l'échantillon, et les électrons transmis étaient récupérés sur le film photographique, qui était déplacé au même rythme que le faisceau. La première micrographie obtenue par un MBT, fait l'image d'un cristal de ZnO grossi 8000 fois avec une résolution latérale de 50 à 100 nanomètres. L'image était composée de 400 par 400 lignes et il a fallu 20 minutes pour l'obtenir. Le microscope disposait de deux lentilles électrostatiques entourant les bobines de balayage. En 1942, le physicien et ingénieur russe Vladimir Zurikin, qui travaillait dans les laboratoires de la Radio Corporation, Ofemriken à Princeton aux États-Unis, a publié les détails du premier microscope électronique à balayage pouvant analyser une surface opaque, et pas seulement analyser un échantillon fin en transmission. Un canon à électrons à filament de tungstène émettait des électrons qui étaient accélérés sous une tension de 10 000 volts. L'optique électronique de l'appareil était composée de trois bobines électrostatiques, les bobines de balayage étant placées entre la première et la seconde lentille. Ce système donnait une image très réduite de la source de l'ordre de 0,01 m, fait assez courant au début de l'histoire des MEB. Le canon à électrons se situait en bas du microscope, pour que la chambre d'analyse puisse se trouver à la bonne hauteur pour le manipulateur. Mais ceci avait une fâcheuse conséquence, car l'échantillon risquait ainsi de tomber dans la colonne du microscope. Ce premier MEB battait. N'est une résolution de l'ordre de 50 nm. Mais à cette époque, le microscope électronique en transmission se développait assez rapidement, et en comparaison des performances de ce dernier, le MEB suscitait beaucoup moins de passion, et son développement fut donc ralenti. 9. Développement du microscope électronique à balayage modifié. À la fin des années 1940, Charles Hetley, alors maître de conférence dans le département d'ingénierie de l'université de Cambridge au Royaume-Uni, s'intéressa au domaine de l'optique électronique, et décida de lancer un programme de recherche sur le microscope électronique à balayage, en complément des travaux effectués sur le microscope électronique à transmission par Ellis Coslett. Également à Cambridge dans le département de physique. Un des étudiants de Charles Hetley, Kansande, commença à travailler sur une colonne pour MEB en utilisant des lentilles électrostatiques, mais il dut s'interrompre un an après en raison de la maladie. C'est Denim Kmulan qui reprit ses travaux en 1948. Charles Hetley et lui-même construisirent leur premier MEB, appelé SEM, un pour Scanning Electron Microscope 1, et en 1952, cet instrument avait atteint une résolution de 50 nm, mais ce qui était le plus important, était qu'il rendait enfin ce stupéfiant effet de relief, caractéristique des MEB modernes. 10. En 1960, l'invention d'un nouveau détecteur par Thomas Eugène-Everard et R.F. Van Thornley va accélérer le développement du microscope électronique à balayage, détecteur Everard-Thornley. Extrêmement efficace pour collecter les électrons secondaires, ainsi que les électrons rétrodiffusés, ce détecteur va devenir très populaire, et se retrouver sur presque chaque MEB. Interaction électron-matière modifiée. En microscopie optique classique, la lumière visible réagit avec l'échantillon, et les photons réfléchis sont analysés par des détecteurs ou par l'œil humain. En microscopie électronique, le faisceau lumineux est remplacé par un faisceau d'électrons primaires, qui vient frapper la surface de l'échantillon, et les photons réémis sont remplacés par tout un spectre de particules ou rayonnements, électrons secondaires, électrons rétrodiffusés, électrons OG ou rayons X. Ces différentes particules ou rayonnements apportent différents types d'informations sur la matière dont est constituée. L'échantillon 11. Électrons secondaires modifiés. Lors d'un choc entre les électrons primaires du faisceau et les atomes de l'échantillon, un électron primaire peut céder une partie de son énergie à un électron pelier de la bande de conduction de l'atome, provoquant ainsi une ionisation par éjection de ce dernier. On appelle l'électron secondaire cet électron éjecté. Ces électrons possèdent généralement une faible énergie, environ 50 V. Chaque électron primaire peut créer un ou plusieurs électrons secondaires. De par cette faible énergie, les électrons secondaires sont émis dans les couches superficielles proches de la surface. Les électrons qui peuvent être recueillis par les détecteurs sont souvent émis à une profondeur inférieure à 10 nanomètres. Grâce à cette faible énergie cinétique, il est assez facile de les dévier avec une faible différence de potentiel. On peut ainsi facilement collecter un grand nombre de ces électrons, et obtenir des images de bonne qualité avec un bon rapport signal, bruit et une résolution de l'ordre de 40 angstrom pour un faisceau de 30 A de diamètre. Étant donné qu'ils proviennent des couches superficielles, les électrons secondaires sont très sensibles aux variations de la surface de l'échantillon. La moindre variation va modifier la quantité d'électrons collectés. Ces électrons permettent donc d'obtenir des renseignements sur la topographie de l'échantillon. En revanche, ils donnent peu d'informations sur le contraste de phase 12. Électrons rétrodiffusés modifiés. Les électrons rétrodiffusés, backscattered électrons en anglais, sont des électrons résultant de l'interaction des électrons du faisceau primaire avec des noyaux d'atomes de l'échantillon, et qui ont réagi de façon quasi élastique avec les atomes de l'échantillon. Les électrons sont réémis dans une direction proche de leur direction d'origine avec une faible perte d'énergie. Ces électrons récupérés ont donc une énergie relativement élevée, allant jusqu'à 30 keV, et beaucoup plus importante que celle des électrons secondaires. Ils peuvent être émis à une plus grande profondeur dans l'échantillon. La résolution atteinte avec les électrons rétrodiffusés sera donc relativement faible, de l'ordre du micromètre ou du dixième de micromètre. De plus, ces électrons sont sensibles au numéro atomique des atomes constituant l'échantillon. Les atomes les plus lourds, ceux ayant un nombre important de protons, réémettront plus d'électrons que les atomes plus légers. Cette particularité sera utilisée pour l'analyse en électrons rétrodiffusés. Les zones formées d'atomes avec un nombre atomique élevé apparaîtront plus brillantes que d'autres, c'est le contraste de phase. Cette méthode pourra permettre de mesurer l'homogénéité chimique d'un échantillon, et permettra une analyse qualitative. 13. Électrons légers modifiés. Lorsqu'un atome est bombardé par un électron primaire, un électron d'une couche profonde peut être éjecté et l'atome entre dans un état excité. La désexcitation peut se produire de deux façons différentes, en émettant un photon 10, transition radiative, ou en émettant un électron Auger, effet Auger. Lors de la désexcitation, un électron d'une couche supérieure vient combler la lacune créée par l'électron initialement éjecté. Durant cette transition, l'électron périphérique perd une certaine quantité d'énergie, qui peut être émise sous forme de photon 10, ou peut alors être transmise à un électron d'une orbite plus externe et donc moins énergétique. Cet électron périphérique se retrouve à son tour éjecté, et peut être récupéré par un détecteur. Les électrons Auger possèdent une très faible énergie, et sont caractéristiques de l'atome qui les a émis. Ils permettent ainsi d'obtenir des informations sur la composition de l'échantillon, et plus particulièrement de la surface de l'échantillon ainsi que sur le type de liaison chimique, dans la mesure évidemment le MEB est équipé d'un détecteur d'électrons réalisant une discrimination en énergie. Ce sont des MEB spécialisés, qui sont équipés d'analyseurs en énergie. On parle alors d'analyse Auger ou de spectrométrie Auger. Le niveau de vide des microscopes électroniques Auger doit être bien meilleur que pour les MEB ordinaires, de l'ordre de 10^14. Rayon 10 modifié. L'impact d'un électron primaire à haute énergie peut ioniser un atome à une couche interne. La désexcitation, le remplissage de l'ordre énergétique de la structure électronique, se produit avec émission de rayons X. L'analyse de ces rayons permet d'obtenir des informations sur la nature chimique de l'atome. 15. Instrumentation modifiée. Canon à électrons modifié. Le canon à électrons est un des composants essentiels d'un microscope électronique et balayage. C'est en effet la source du faisceau d'électrons, qui viendra balayer la surface de l'échantillon. La qualité des images et la précision analytique que l'on peut obtenir avec un MEB requiert que le spot électronique sur l'échantillon soit à la fois fin, intense et stable. Une forte intensité dans un spot le plus petit possible nécessite une source brillante. L'intensité ne sera stable que si l'émission de la source l'est également. Le principe du canon à électrons est d'extraire les électrons d'un matériau conducteur, qui en est une réserve quasiment inépuisable, vers le vide où ils sont accélérés par un champ électrique. Le faisceau d'électrons ainsi obtenu est traité par la colonne électronique, qui en fait une sonde fine balayée sur l'échantillon. Il existe deux familles de canons à électrons selon le principe utilisé pour extraire les électrons. L'émission thermoionique, avec les filaments de tungstène et pointe l'abscisse. L'émission par effet de champ. Il existe également un principe intermédiaire, la source choquée à émission de champ, de plus en plus employée. Suivant ces distinctions et le mode de fonctionnement, les canons à électrons ont des propriétés et des caractéristiques différentes. Il existe des grandeurs physiques pour les caractériser. La principale est la brillance mais la durée de vie est également très importante, ainsi que la stabilité. Le courant maximum disponible peut également être pris en considération, ainsi que la dispersion énergétique. 16. Brillance d'une source modifiée. On peut définir la brillance B d'une source par le rapport du courant émis par la source au produit de la surface de la source par l'angle solide. Dans le cas général, on ne sait mesurer que la surface d'une source virtuelle, qui est la zone d'où semblent provenir les électrons, définition à revoir. Bégala fragmatrum courant acute E mi matrum surface de la source times matrum angle solide. Pour une source d'électrons dont les caractéristiques sont le diamètre de la source virtuelle D, le courant émis première, le demi-angle d'ouverture, l'expression de la brillance devient, dans les systèmes optiques, la brillance, qui se mesure en m de SR1, ampères par unité de surface et par angle solide, a la propriété de se conserver, lorsque l'énergie d'accélération est constante. Si l'énergie varie, la brillance lui est proportionnelle. Pour obtenir un signal de détection abondant, lorsque le spot sur l'échantillon est très petit, il faut que la brillance de la source soit la plus élevée possible. Dans la littérature, on trouve très souvent la brillance exprimée en 1 cm de SR1, 17. Émission thermoionique, filament de tungstène et pointe l'abscisse modifiée. Des matériaux tels que le tungstène et l'hexaborure de lanthane, l'abscisse, sont utilisés en raison de leur faible travail de sortie, c'est-à-dire de l'énergie nécessaire pour extraire un électron de la cathode. En pratique, cette énergie est apportée sous forme d'énergie thermique en chauffant la cathode à une température suffisamment élevée, pour qu'une certaine quantité d'électrons acquiert l'énergie suffisante pour franchir la barrière de potentiel qui les maintient dans le solide. Les électrons qui ont franchi cette barrière de potentiel se retrouvent dans le vide où ils sont ensuite accélérés par un champ électrique. Dans la pratique, on peut utiliser un filament de tungstène, formé comme une épingle à cheveux, que l'on chauffe par effet joule, comme dans une ampoule électrique. Le filament est ainsi porté à une température supérieure à 2200 degrés Celsius, typiquement 2700 degrés Celsius. Les cathodes ou l'abside doivent être chauffées à une température moins élevée, mais la technologie de fabrication de la cathode est un peu plus compliquée car l'abside ne peut pas être formé en filament. En fait, on accroche une pointe de monocristal de l'abside à un filament en carbone. Le cristal d'hexaborure de lanthane est porté aux alentours de 1500 degrés Celsius pour permettre l'émission d'électrons. Cette cathode nécessite un vide plus poussé que pour un filament de tungstène, de l'ordre de 10, 6 à 10, 7 heures contre 10, 5. Les cathodes en hexaborure de sorium, sepsis, ont des propriétés très voisines. Le filament de tungstène porté à une température de 2700 degrés Celsius a une brillance typique de 105 A, cm, 2 SR, pour une tension d'accélération de 20 kV 18. Il a, à cette température, une durée de vie entre 40 et 100 heures. Le diamètre de la source virtuelle est de l'ordre de 40 mètres. La cathode lepsi portée à une température de 1500 degrés Celsius a une brillance typique de 106 à cm de SR1 pour une durée de vie entre 500 et 1000 heures. Le diamètre de la source virtuelle est de l'ordre de 15,19 m. Canon à émission de champ modifié. Le principe d'un canon à émission de champ est d'utiliser une cathode métallique en forme de pointe très fine et d'appliquer une tension de l'ordre de 2000 à 7000 volts entre la pointe et l'anode. On produit ainsi, par effet de pointe, un champ électrique très intense, de l'ordre de 107 volts cm1, à l'extrémité de la cathode. Les électrons sont alors extraits de la pointe par effet tunnel. Il existe deux types de canons à émission de champ, FEU en anglais pour field emission gun. L'émission de champ à froid, CFE en anglais. La pointe reste à température ambiante. L'émission de champ assistée thermiquement, TFE en anglais. La pointe est alors portée à une température typique de 1800 DEGK. Le gros avantage des canons à émission de champ est une brillance théorique qui peut être 100 fois plus importante que celle des cathodes lepsi. Le deuxième type de canon, assisté thermiquement, est de plus en plus utilisé, car il permet pour un sacrifice en brillance très modeste de mieux maîtriser la stabilité de l'émission. Le courant disponible est également plus élevé. Avec un canon à émission de champ froid, le courant disponible sur l'échantillon n'est en effet jamais supérieur à 1 A, alors qu'avec l'assistance thermique, il peut approcher les 100 A, 20. Une autre grosse différence entre les canons à émission de champ et les canons thermoioniques est que la source virtuelle est beaucoup plus petite. Cela provient du fait que toutes les trajectoires sont normales à la surface de la pointe, qui est une sphère d'environ 1 mètre, les trajectoires semblent ainsi provenir d'un point. C'est ainsi que l'on obtient des brillances très élevées. 108 à cm de SR1 pour les cathodes froides et 107 à cm de SR1 pour les cathodes à émission de champ chauffé. Sur l'échantillon, la brillance est toujours dégradée, 19. Le très petit diamètre de la source virtuelle nécessite moins des tâches de réduction, mais un inconvénient est que la source, moins réduite est plus sensible aux vibrations. Colonne optique modifiée. Colonne pour canon à émission thermoionique modifiée. La fonction de la colonne électronique est de produire à la surface de l'échantillon une image de la source virtuelle suffisamment réduite pour que le spot obtenu soit assez fin pour analyser l'échantillon avec la résolution requise, dans la gamme des 0,5 à 20 nm. La colonne doit également contenir des moyens pour balayer le faisceau. comme les sources des canons à émission thermoionique, ont un diamètre typique de 20 mètres, la réduction de la colonne électronique doit être d'au moins 20 000, produite par trois étages comportant chacun une lentille magnétique, voire fibre ci-dessus. La colonne électronique doit également comporter un diaphragme de limitation d'ouverture, car les lentilles magnétiques ne doivent être utilisées que dans leur partie centrale pour avoir des aberrations plus petites que la résolution recherchée. L'astigmatisme résultant, par exemple de défaut de sphéricité des lentilles, peut être compensé par un stigmateur, mais l'aberration sphérique et l'aberration chromatique ne peuvent être corrigées. Le balayage du spot sur l'échantillon résulte de champs magnétiques selon les deux directions transverses, dits CI, produits par des bobines de déflexion, qui sont parcourues par des courants électriques. Ces bobines de déflexion sont situées juste avant la dernière lentille, 19, colonne pour canon à émission de champ modifié. Les colonnes électroniques montées avec des canons à émission de champ peuvent avoir une réduction de la source bien inférieure à celle des colonnes conventionnelles, 19. La colonne Gemini représentée sur la figure ci-contre comporte deux lentilles magnétiques, mais cette paire de lentilles, montées en doublet, ne constitue en fait qu'un seul étage de réduction. La structure en doublet permet d'éviter de limiter le nombre de crossovers, c'est-à-dire d'images intermédiaires de la source, comme sur les colonnes conventionnelles, car ces crossovers sont générateurs de dispersion en énergie, et donc d'aberrations chromatiques. La forte brillance des sources à émission de champ les rend particulièrement propices aux applications à basse énergie d'impact, c'est-à-dire inférieure à 6 kF, car la brillance étant proportionnelle à l'énergie d'accélération, l'obtention d'un courant électronique primaire confortable ne saurait tolérer le cumul de deux handicaps, celui d'une source médiocre et d'une faible énergie d'accélération. Plusieurs raisons peuvent pousser à rechercher les faibles énergies d'impact. Lorsque l'image résulte d'un mode de détection, qui met en cause l'ensemble de la poire de pénétration des électrons dans la matière, comme c'est le cas, par exemple, pour l'utilisation en microanalyse par rayon X, plus l'énergie d'impact est élevée, et plus la poire est évasée. Pour l'analyse dans les isolants dans le cas où une métallisation superficielle de l'échantillon introduirait un artefact de mesure. Il existe un niveau d'énergie, situé aux environs de 1500 V dans le cas de la silice, pour lequel il y a autant d'électrons secondaires émis que d'électrons primaires incidents. Pour travailler à basse énergie, par exemple à 1500 V, ou à quelques centaines de V, il est intéressant de véhiculer les électrons à énergie plus importante dans la colonne, et de les ralentir juste avant l'échantillon. L'espace de ralentissement forme alors une lentille électrostatique, c'est ce qui est représenté sur la figure de ce paragraphe. Lorsque les électrons restent à énergie constante, les lentilles magnétiques ont des aberrations plus faibles que les lentilles électrostatiques, mais il se trouve que les lentilles comprenant une zone de ralentissement, nécessairement électrostatique, ont toutes les aberrations relatives à l'ouverture du faisceau considérablement réduites 22. Lorsque l'énergie d'impact est faible, et qu'il y a un champ électrique de ralentissement proche de l'échantillon, la mise en place du détecteur d'électrons secondaires dans l'espace entre la dernière lentille et l'échantillon pose de plus en plus de problèmes. Une solution consiste alors à disposer le détecteur à l'intérieur de la colonne. En effet, le champ électrique qui ralentit les électrons primaires accélère les ions secondaires. En anglais, ce type d'arrangement est connu sous le nom d'in-lance détecteur ou trou de lance détecteur, détecteur TTL. En français, on pourrait dire détecteur dans la colonne. Détecteur d'électrons secondaires modifiés. Le détecteur d'électrons secondaires, ou détecteur Everard-Hornley, a été développé dans le but d'améliorer le système de collection utilisé à l'origine par Vladimir Zurikin, et qui était constitué d'un écran phosphorescent, photomultiplicateur. En 1960, deux étudiants de Charles Hetley, Thomas Eugene Everard et R.F.N. Thornley, ont eu l'idée d'ajouter un guide de lumière entre cet écran phosphorescent et ce photomultiplicateur. Ce guide permettait un couplage entre le scintillateur et le photomultiplicateur, ce qui améliorait grandement les performances. Inventé il y a plus d'un demi-siècle, ce détecteur est aujourd'hui celui le plus fréquemment utilisé. Un détecteur Everard-Hornley est composé d'un scintillateur qui émet des photons sous l'impact d'électrons à haute énergie. Ces photons sont collectés par un guide de lumière et transportés vers un photomultiplicateur pour la détection. Le scintillateur est porté à une tension de plusieurs kilovolts, afin de communiquer de l'énergie aux électrons secondaires détectés. Il s'agit en fait d'un procédé d'amplification. Pour que ce potentiel ne perturbe pas les électrons incidents, il est nécessaire de disposer une grille, sorte de cage de Faraday, pour blinder le scintillateur. Dans le fonctionnement normal, la grille est polarisée à quelque plus de 200 volts par rapport à l'échantillon de façon à créer à la surface de l'échantillon un champ électrique suffisant pour drainer les électrons secondaires, mais assez faible pour ne pas créer d'aberration sur le faisceau incident. La polarisation du scintillateur a une tension élevée, et le fort champ électrique qui en résulte est incompatible avec un méba faible vide. Il se produirait alors une ionisation de l'atmosphère de la chambre d'observation consécutive à l'effet Pachant. Polarisée à 250 volts par rapport à l'échantillon, voire schéma de gauche, la grille attire une grande partie des électrons secondaires émis par l'échantillon sous l'impact du faisceau d'électrons primaires. C'est parce que le champ électrique généré par la cage de Faraday est fortement dissymétrique qu'on peut obtenir un effet de relief. Lorsque la grille est polarisée négativement, typiquement à 50 volts, voire schéma de droite, le détecteur repousse l'essentiel des électrons secondaires, dont l'énergie initiale est souvent inférieure à 10 eV. Le détecteur Everhart-Hornley devient alors un détecteur d'électrons rétrodiffusés. 23. Préparation de l'échantillon modifié. La qualité des images obtenues en microscopie électronique et à balayage dépend grandement de la qualité de l'échantillon analysé. Idéalement, celui-ci doit être absolument propre, si possible plat et doit conduire l'électricité, afin de pouvoir évacuer les électrons. Il doit également être de dimension relativement modeste, de l'ordre d'un à 2 cm. Toutes ces conditions imposent donc un travail préalable de découpe et de polissage. Les échantillons isolants, échantillons biologiques, polymères, etc., doivent en plus être métallisés, c'est-à-dire recouverts d'une fine couche de carbone ou d'or. Échantillons métalliques modifiés. Cette section est vide, pas assez détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue. Échantillons biologiques modifiés. Par nature, les échantillons biologiques contiennent de l'eau et sont plus ou moins mous. Ils nécessitent donc une préparation plus attentive, qui vise à les déshydrater sans en détruire la paroi des cellules. De plus, comme tous les échantillons destinés à être observés dans un MEB, ceux-ci doivent être conducteurs. Pour cela, ils doivent donc subir une préparation spécifique en plusieurs étapes. La première étape est une étape de fixation, qui vise à tuer les cellules tout en s'efforçant d'en conserver les structures, pour que l'on puisse observer l'échantillon dans un état aussi proche que possible de l'état vivant. La seconde étape consiste à extraire de l'échantillon les éléments destinés à l'observation. Il n'est pas rare de ne s'intéresser qu'à un organe ou à un élément précis du spécimen, par exemple la surface d'un œil, une élytre, une écaille ou un poil d'un insecte. Il faut donc souvent isoler cette partie avant de la préparer pour l'observation. Il existe plusieurs techniques pour extraire ces parties. La plus simple étant une dissection manuelle, ou la dissolution des parties moléchères. Une condition nécessaire à tous les échantillons, mais plus particulièrement les échantillons biologiques est la propreté. La surface de l'échantillon biologique à étudier doit contenir le moins d'impuretés possible, pour permettre une netteté parfaite même avec des grandissements importants. Pour cela, il existe trois principales techniques, le nettoyage manuel, mécanique ou chimique. Les échantillons doivent être absolument secs, et ne comporter aucune trace d'eau. En effet, la pression dans la chambre d'observation est très faible et les molécules d'eau contenues dans l'échantillon risqueraient de détruire les cellules en s'évaporant, ou de polluer la chambre d'observation. Il existe également différentes méthodes pour y parvenir suivant la nature de l'échantillon biologique, séchage à l'air, par contournement du point cryptique, ou par déshydratation chimique. Une fois nettoyé, séché, rendu conducteur, l'échantillon est prêt à être monté sur le porte-objet, et placé dans la chambre d'observation. Différents types d'imagerie modifiées. Un microscope électronique à balayage peut avoir plusieurs modes de fonctionnement suivant les particules analysées. Imagerie en électrons secondaires modifiés. Dans le mode le plus courant, un détecteur d'électrons transcrit le flux d'électrons en une luminosité sur un écran de type télévision. En balayant la surface, on relève les variations de contraste, qui donnent une image de la surface avec un effet de relief. La couleur, noir et blanc, sur la micrographie obtenue, est une reconstruction par un système électronique, et n'a rien à voir avec la couleur de l'objet. La détection des électrons secondaires, est le mode classique d'observation de la morphologie de la surface. Les électrons secondaires captés, proviennent d'un volume étroit, environ 10 nm. De fait, la zone de réémission fait à peu près le même diamètre que le faisceau. La résolution du microscope, et donc le diamètre du faisceau, soit environ 10 nm. Une grille placée devant le détecteur d'électrons, polarisée positivement, 200-400 volts, attire les électrons. De cette manière, la majorité des électrons secondaires sont détectés alors que les électrons rétrodiffusés, qui ont une énergie plus élevée, ne sont quasiment pas déviés par le champ électrique produit par la grille du collecteur. La quantité d'électrons secondaires produite ne dépend pas de la nature chimique de l'échantillon, mais de l'angle d'incidence du faisceau primaire avec la surface. Plus l'incidence est rasante, plus le volume excité est grand, donc plus la production d'électrons secondaires est importante, d'où un effet de contraste topographique. Une pente apparaît plus lumineuse qu'un plat. Cet effet est renforcé par le fait que le détecteur est situé sur le côté, les électrons provenant des faces situées dos au détecteur sont réfléchis par la surface, et arrivent donc en plus petite quantité au détecteur, créant un effet d'ombre. 24. Imagerie en électrons rétrodiffusés modifiés. Les électrons rétrodiffusés proviennent d'un volume plus important, le volume d'émission fait donc plusieurs fois la taille du faisceau. La résolution spatiale du microscope en électrons rétrodiffusés est d'environ 100 nm. Les électrons rétrodiffusés traversent une épaisseur importante de matière avant de ressortir, de l'ordre de 450 nm. La quantité d'électrons capturés par les atomes rencontrés, et donc la quantité d'électrons rétrodiffusés, qui ressortent dépend de la nature chimique des couches traversées. Le taux d'émission électronique augmente avec le numéro atomique. On obtient donc un contraste chimique, les zones contenant des atomes légers, Z faibles, apparaissant en plus sombre. En revanche, le taux d'émission dépend peu du relief, l'image apparaît donc plate 25. Les détecteurs d'électrons rétrodiffusés sont placés au-dessus de l'échantillon, dans l'axe du faisceau primaire, ce qui permet de récupérer le maximum de signal. Imagerie en diffraction d'électrons rétrodiffusés modifiés. Comme toute particule élémentaire, les électrons ont un comportement corpusculaire et ondulatoire. Ce mode d'imagerie en diffraction d'électrons rétrodiffusés, plus connu sous le nom de EBSD pour Electron Backscatter Diffraction en anglais, utilise la propriété ondulatoire des électrons, et leur capacité à diffracter sur un réseau cristallographique. Elle est particulièrement efficace pour caractériser la microstructure des matériaux polycristallins. Elle permet de déterminer l'orientation des différents grains dans un matériau polycristallin, et l'identification des phases d'une cristallite, dont la composition a préalablement été faite par spectrométrie 10. Couplé à un capteur CCD, le détecteur EBSD est composé d'un écran phosphorescent, qui se trouve directement dans la chambre d'analyse du microscope. L'échantillon est incliné en direction du détecteur, et l'angle par rapport au faisceau d'électrons primaires est de l'ordre de 70 degrés. Lorsque les électrons viennent frapper la surface de l'échantillon, ils la pénètrent sur une certaine profondeur, et sont diffractés par les plans cristallographiques selon un angle, B dont la valeur est donnée par la loi de Bragg. DHKL représente la distance interrecticulaire, la longueur d'onde et le nombre entier n l'ordre de diffraction. La diffraction se fait sur 360 degrés, et chaque plan diffractant crée un cône de diffraction, dont le sommet se situe au point d'impact du faisceau d'électrons primaires. Il existe donc autant de cônes de diffraction que de plans diffractants. L'espacement entre ces différents cônes est, par l'intermédiaire de la loi de Bragg, relié à la distance entre les plans cristallins. L'inclinaison de l'échantillon et la position de l'écran phosphorescent sont telles que ces cônes viennent frapper l'écran. Les électrons font scintiller l'écran phosphorescent et peuvent être détectés par la caméra CCD. Sur l'écran, ces portions de cônes tronquées apparaissent sous la forme de lignes. Le cliché de diffraction que l'on obtient est une superposition de bandes sombres alternées avec des bandes de plus forte intensité, que l'on appelle lignes de Kikuchi. Ces lignes, leurs divers points d'intersection et leurs espacements, peuvent être, en connaissant la distance de l'écran à l'échantillon, convertis en angle et l'on peut ainsi déterminer les paramètres de maille. Avec cette méthode et du fait de la grande inclinaison de l'échantillon, la résolution spatiale est très asymétrique, de l'ordre d'un mètre latéralement, mais de l'ordre de 50 à 70 mètres longitudinalement 26. Imagerie en courant d'échantillon modifié. Le principe de l'imagerie en courant d'échantillon, en anglais EBIC pour électron BM induced current, ou courant induit par un faisceau électronique, est différent des précédents modes de fonctionnement, car il n'est pas basé sur une analyse des particules éventuellement réémises par la matière mais sur une mesure du courant transmis par l'échantillon. Lorsqu'un échantillon est bombardé par un certain flux d'électrons incidents, environ 50% de ces éléments sont réémis sous forme d'électrons rétrodiffusés, et 10% sous forme d'électrons secondaires. Le reste du flux d'électrons se propage à travers l'échantillon jusqu'à la Terre. En isolant l'échantillon, on peut canaliser ce courant et en l'amplifiant, on peut l'utiliser pour créer une image de la structure de l'échantillon, c'est le principe de l'imagerie en courant d'échantillon. Le courant induit au sein de l'échantillon est particulièrement sensible à un éventuel champ électrique. La technique par courant d'échantillon est principalement utilisée pour représenter des régions où le potentiel électrique varie. La différence de dopage au sein d'une jonction PN entre la zone d'OPN et la zone d'OPP induit une polarisation. Cette technique est particulièrement utilisée pour étudier les jonctions PN des semi-conducteurs où la conductivité électrique varie en fonction du dopage. Lorsque le faisceau d'électrons se situe sur la zone d'OPN, le courant transmis est faible, alors que lorsqu'il se trouve sur la zone d'OPP, les électrons se propagent plus facilement et la zone apparaît en plus clair. En dehors de cet exemple des jonctions PN, l'imagerie en courant d'électrons est particulièrement adaptée pour repérer des défauts, par exemple un défaut ponctuel d'un réseau cristallin qui apparaît alors, sous la forme de points de ligne noire, une hétérogénéité de dopage 27. Imagerie chimique élémentaire par spectrométrie de rayons X modifiés. L'énergie des rayons X émis lors de la désexcitation des atomes dépend de leur nature chimique, ce sont les raies caractéristiques. En analysant le spectre des rayons X, on peut avoir une analyse élémentaire, c'est-à-dire savoir quels types d'atomes sont présents. Le faisceau balayant l'écran, on peut même dresser une cartographie chimique, avec toutefois une résolution très inférieure à l'image en électrons secondaires, de l'ordre de 3, monsieur. L'analyse peut se faire par dispersion de longueur d'onde, WDS, Wavelength Dispersive Spectroscopy, c'est le principe de la microsonde de Kastin inventée en 1951 par Raymond Kastin, ou par dispersion d'énergie, EDS, Energy Dispersive Spectroscopy. La technique utilisant les longueurs d'onde est plus précise et permet des analyses quantitatives, alors que celle utilisant l'énergie est plus rapide et moins coûteuse. En dispersion d'énergie, la détection des photons 10 est réalisée par un détecteur constitué d'une diode de cristal de silicium dopé en lithium en surface. Ce cristal est maintenu à la température de l'azote liquide pour minimiser le bruit électronique, et ainsi améliorer la résolution en énergie, et donc la résolution spectrale. Le détecteur est protégé par une fenêtre en béryllium pour éviter son givrage lors d'un contact avec l'air ambiant 28. Mesure sous vide partielle modifiée. Si un échantillon est peu conducteur, par exemple le verre ou les plastiques, des électrons s'accumulent sur la surface et ne sont pas évacués, cela provoque une surbrillance qui gêne l'observation. On dit alors que l'échantillon charge. Il peut être alors intéressant de fonctionner avec un vide partiel, c'est-à-dire une pression de 7 Pa, contre 10, 3 à 10, 4 Pa en conditions habituelles, avec une intensité de faisceau moins forte. Les électrons accumulés sur l'échantillon sont neutralisés par les charges positives de gaz, azote principalement, engendrées par le faisceau incident. L'observation est alors possible par le détecteur d'électrons rétrodiffusés, qui reste fonctionnel dans ce mode de pression contrôlée. Le signal provenant des électrons secondaires est formé grâce à des procédés propres à chaque constructeur de microscope 29. L'analyse 10 dans ce mode reste possible. Application modifiée. Microélectronique, technologie des semi-conducteurs et microfabrication modifiée. La mise sur le marché microscope électronique et à balayage est à peu près contemporain de l'envol de l'industrie des semi-conducteurs. C'est dans ce domaine d'activité que le MEPS s'est répandu le plus massivement, étant reconnu comme un outil précieux dans la mise au point des procédés de fabrication des dispositifs, dont l'élément caractéristique, la grille de transistor, est passée d'une largeur typique de quelques micromètres à la fin des années 1960 à moins de 200 nanomètres au XXIe siècle. Non seulement le MEB a permis de voir au-delà des limites du microscope optique, mais la vision en relief s'est avérée très pratique pour l'aide à la microfabrication où il est souvent important de contrôler la verticalité des couches déposées ou des couches gravées. Voir, par exemple, sur la figure ci-contre, une image de MEB d'un motif de photorésine gravé. Très populaire dans les laboratoires de recherche et développement, le MEB est également devenu un outil très répandu dans les unités de production-fabrication, en tant qu'outil de contrôle industriel. La chambre d'analyse doit alors pouvoir accepter des tranches de silicium, en anglais, WFE, entières, c'est-à-dire dont le diamètre est, en 2006, de 200 mm ou 300 mm, on a même donné un nom particulier aux appareils, qui effectuent du contrôle dimensionnel. C'est-à-dire, qui vérifient la largeur d'une ligne. En anglais, on les appelle des CDSM. Ces appareils sont entièrement automatisés, ils ne produisent pas d'image à proprement parler, le calculateur de contrôle amène un motif de test exactement sur l'axe du faisceau qui est alors balayé dans une seule direction. Le signal du détecteur d'électrons secondaires est enregistré et analysé pour générer la largeur mesurée. Si celle-ci est en dehors du gabarit donné, l'alerte est donnée, et la tranche de silicium, considérée comme mauvaise, peut rejeter. Une autre application des MEB dans les unités de production de semi-conducteurs est la caractérisation de microparticules qui contaminent la surface des tranches. Le but final est d'identifier la cause de la contamination afin de la supprimer. La particule dont la taille peut varier de 100 nm à 1 mètre a été détectée par une machine d'inspection spécialisée qui communique les coordonnées de la particule au MEB d'analyse. Celui-ci est alors utilisé à la fois dans le mode imagerie, pour produire une image de la particule à fort grossissement et en micro-ondes de Kasten, ce qui implique que le MEB soit équipé d'un spectromètre 10. L'image peut aider à l'identification de la particule, mais c'est surtout la caractérisation chimique résultant de l'analyse en longueur d'onde des rayons X, qui donnera une piste permettant de remonter à la cause de la contamination. La sonde électronique d'un MEB peut être utilisée non pas pour observer, mais pour écrire et fabriquer. Il s'agit alors de lithographie à faisceau d'électrons. Science des matériaux modifiés. Les MEB utilisés en métallographie sont généralement équipés d'un spectromètre 10, qui permet leur utilisation en micro-ondes de Kasten. Ce sont des outils très communément répandus pour la caractérisation microstructurale des matériaux, qui permettent d'obtenir à la fois des renseignements relatifs à la morphologie et à la répartition des constituants, et des informations cristallographiques et compositionnelles. Pour obtenir certaines figures de diffraction, peu d'okikuchi, comme celle, on est amené à pervertir le système de balayage de l'instrument. Au lieu de générer un balayage en mode rectangulaire, on excite des bobines de déflexion de façon à faire pivoter le faisceau de plusieurs degrés autour d'un point fixe de l'échantillon. L'image générée est alors une figure de diffraction correspondant à une zone de l'échantillon de quelques micromètres. Fibre de polyester observée au MEB. Surface de fracture d'un acier bénitique. Biologie modifiée. Au contraire des microscopes électroniques en transmission, le MEB se prête peu à l'étude des cellules. Par contre, la vision en relief du MEB se prête bien à l'observation des micro-organismes, pas forcément pour le pouvoir de résolution spatiale, mais pour la profondeur de champ nettement plus élevée que celle des microscopes optiques. Divers modifiés. Le microscope électronique à balayage est l'un des appareils fondamentaux pour les recherches tribologiques, voir à ce sujet le Wikilivre de tribologie, et plus spécialement le chapitre consacré à la genèse des frottements. Marché modifié. Le marché des microscopes, tous types confondus, est estimé à 811 millions de dollars US, dont environ 60% sont générés par les microscopes optiques 2. Avec 26%, les microscopes électroniques représentaient la deuxième part de ce marché, estimé en 1999, par Global Information Incorporated à environ 222 millions de dollars 30. Global Information Incorporated estime également que la part des microscopes optiques ira en diminuant, celle des microscopes confocales restera stable tandis que le marché des microscopes électroniques se développera et était estimé à 747 millions de dollars en 2005. 2. Le prix moyen d'un MEB est estimé à 200 000 dollars, mais peut monter jusqu'à 1 million de dollars pour les appareils les plus avancés. Cependant, de nouveaux microscopes, qualifiés de microscopes à bas prix, low-cost microscopes, ont été récemment proposés sur le marché, pour un tiers du prix moyen d'un MEB 31.